gloire et louange et adoration parce qu'il est bon. Il est rempli d'amour, il est digne de louange. Et quelle belle façon de commencer l'année du bon pied en louant le Seigneur, en venant à sa maison, en lui rendant des actions de grâce. Et en remettant toutes nos vies. On ne sait pas ce que cette année nous réserve, ce quelles seront les choses inattendues, non planifiées, on ne sait pas. Mais le Seigneur connaît ces toutes choses et nous pouvons marcher avec lui en toute confiance et en toute assurance et en toute paix. Et nous bénissons le Seigneur pour cela et pour tout dans le fond, ce qu'il est, ce qu'il fait. Donc ce soir, bienvenue à tous et à toutes, ceux qui sont présents dans la salle, ceux qui nous regardent via Internet, que Dieu vous bénisse. Et si jamais je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire, samedi au repas, bonne et heureuse année, tous mes meilleurs voeux de ma part, de la part de ma famille, pour vous, pour votre maison, pour votre foyer. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans cette nouvelle année. Nous avons été grandement bénis par les derniers événements dans l'Église, l'organisation du 50e célébration que nous avons eue également samedi. Donc, un gros merci. Je sais qu'on l'a dit, mais je pense que ça vaut la peine de le redire. Un gros merci à tous et à toutes qui ont contribué, directement ou indirectement, de près ou de loin, les ouvriers de la première heure comme les ouvriers de la dernière heure. À tous et à toutes, un gros merci pour votre soutien, pour votre contribution, pour votre appui et pour les heures extra également. Tout ça n'est pas en vain. Et on tient à vous remercier pour l'organisation, pour la préparation, pour le nettoyage aussi. C'est pas terminé de tout remettre en place. C'est quand même un gros travail. Mais d'avance, on remercie ceux et celles qui, de tout cœur et de bon cœur, servent le Seigneur de cette façon-là. J'aimerais qu'on prie avant de rentrer dans le fond, dans le vif de la parole pour ce soir. On aimerait qu'on prie pour la sœur Manon qui, hier, nous avons appris que sa maman est décédée. Donc, ils étaient dans une réunion de pasteurs lorsqu'ils ont eu la nouvelle. Donc, on va prier pour la sœur Manon, pour sa famille, le frère André également, qu'il soit un soutien pour son épouse dans ces temps difficiles et que le Seigneur apporte paix et consolation. Amen. Et s'il y a toute autre situation ou besoin que vous savez qui est présent dans l'Assemblée, élevez-le devant le trône de grâce. On est ici pour prier les uns pour les autres, prier pour nos bien-aimés. Et donc, dans les prochaines minutes, prenons le temps de prier. Donc, je vous demandais de vous mettre debout. Et nous allons faire cela pour nos bien-aimés. Père éternel, ce soir, nous sommes devant toi, Seigneur, non pas à cause de nos œuvres, non pas à cause de nos mérites, Seigneur, c'est vraiment par ta grâce, par ton sang précieux, Seigneur, versé à la croix, pour le salut de notre âme, Seigneur, pour le pardon de nos péchés. Et que tu nous permets, Seigneur, d'être appelés enfants de Dieu et de venir, Seigneur, devant ton trône de grâce, Seigneur, de présenter nos requêtes, nos louanges, nos offrandes, Seigneur. Et ce soir, nous voulons te présenter la sœur Manon et sa famille, Seigneur, suite au décès de la maman, Seigneur. Tu connais les circonstances, tu connais bien que toute autre personne, Seigneur, les événements, Seigneur, les choses qui sont autour, Seigneur, de ce décès. Et la dynamique, Seigneur, dans la famille. Mais Seigneur, nous te demandons, Père, d'intervenir avec ta grâce, avec ta paix, avec ta consolation, ton réconfort, Seigneur, directement par ton esprit, mais également à travers tes enfants, Seigneur, les bien-aimés qui sont autour de la sœur Manon, Seigneur, de sa famille, qu'ils puissent être entourés, Seigneur, de ta grâce et de ta paix. Autant par ton esprit, Seigneur, que par tes enfants. Seigneur, donne sagesse, donne grâce, Seigneur, à ton bien-aimé, Seigneur, également, pour pouvoir être le soutien et l'appui que la sœur Manon a besoin, Seigneur, dans ces instants, et la famille également, Seigneur Jésus. Les remettons, Père, entre tes mains, sachant qu'entre tes mains, ils sont, Seigneur, dans les meilleurs soins possibles. Nous bénissons également ton nom, Seigneur, et te demandons de glorifier ton nom dans toute autre situation, tout autre besoin, qui peut être autour de nous, parmi nous, Seigneur, des gens qui peuvent être dans des situations, Seigneur, difficiles, des gens peut-être, Seigneur, qui ont commencé l'année, Seigneur, d'une façon inespérée, inattendue, Seigneur. Rien ne te surprend. Rien ne te surprend, Seigneur. Tu es le rocher. Tu es le rocher, Seigneur. Sois le rocher de nos bien-aimés, Seigneur, ce soir. Sois, Seigneur, celui qui calme la tempête. Celui, Seigneur, qui donne le repos. Celui qui multiplie les ressources. Celui, Seigneur, qui apporte la paix, Seigneur, là où elle est nécessaire. Prions, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus. Et nous disons Amen. Pouvez-vous asseoir? Donc, ce soir, c'est notre premier mercredi de l'année. Donc, je me suis dit, on commence ça en grand avec une grosse étude sur Jésus-Christ. Donc, on sort d'ici à 10 heures le soir à peu près. On va faire la première pause à 10 heures le soir plutôt. Il y a quelques semaines en arrière, ma dernière présence ici, j'avais parlé justement de Jésus, un peu en parlant de sa nature humaine. Aujourd'hui, c'est juste un genre de complément où est-ce que j'aimerais qu'on regarde un peu plus attentivement sur la double nature de Jésus-Christ et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit à propos de qui est Jésus. Je pense que c'est important dans certains cas d'avoir ce rafraîchissement de mémoire, dans d'autres cas d'apprendre davantage qui est notre Seigneur Jésus-Christ et qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport au Seigneur Jésus. Mais juste avant, un petit rappel ou une petite annonce. Ce vendredi, comme vous le savez, nous avons des pasteurs qui sont en visite. Donc, nous avons le pasteur Domingo du Panama, le pasteur Arley du Costa Rica, le pasteur Francisco qui est du Nicaragua. Et vendredi, il va y avoir une réunion missionnaire où les bien-aimés vont pouvoir partager, dans le fond, un peu l'état de la situation dans leurs pays respectifs, dans leurs œuvres, dans leurs églises, peut-être même apporter des témoignages, apporter des requêtes de prière. Donc, je pense que ça serait bien pour nous tous d'être présents pour être informés de ce qui se passe, savoir comment prier également pour nos bien-aimés, savoir quels peuvent être les défis ou les besoins qu'ils font face et prier de façon comment est-ce que nous, autant individuellement qu'en tant qu'Église, nous pouvons soutenir ses œuvres et soutenir nos bien-aimés. Donc, ils sont ici encore pour quelques jours. Vendredi, ils vont être ici à 19h. Donc, cette rencontre-là va débuter à 19h. Donc, soyons présents et venons écouter ce que le Seigneur fait en Amérique centrale et comment est-ce que nous pouvons également les aider. Donc, sur cela, nous allons maintenant dans l'étude de ce soir. Donc, j'ai repris un petit peu mes anciennes habitudes lorsque je préparais les études sur servir en temps de défi, où c'est que pendant une soixantaine de semaines, je me présentais devant vous avec une présentation PowerPoint. Donc, ce n'est pas des formations professionnelles, c'est vraiment que ça, je pense que ça permet à le support visuel aide beaucoup des fois à retenir l'information ou des fois juste prendre note. Donc, je me suis permis de préparer cela pour vous ce soir. Parce que quand on veut parler de qui est Jésus et de sa double nature, bien, il y a du stock dans la Bible. Il y a du stock et je pense que j'ai fait peur à la sœur à l'arrière qui pensait qu'il devait aller chercher toutes les références bibliques. Et la pauvre, elle a eu chaud. Mais grâce à Dieu, tout est dans la présentation. Donc, je veux juste avoir besoin que tu cliques, ma sœur, pour passer d'une diapo à une autre. C'est tout. Donc, juste avant, on va prier. On va demander au Seigneur de nous parler, de nous instruire. Que nous puissions avoir le cœur attentif Nous ayons toute notre attention dans la parole de Dieu, dans ce qu'il a à nous partager ce soir. Père, en ce moment, Seigneur, nous voulons disposer entièrement, Seigneur, pour toi, Seigneur, pour ta parole, que cet enseignement vienne rafraîchir notre vie, Seigneur, vienne, Seigneur, nous enraciner davantage, Seigneur, dans ta parole, vienne nous enseigner, nous apprendre davantage combien, Seigneur, tu es merveilleux, combien tu es merveilleux et précieux, Seigneur, combien ton salut est précieux. Merci Seigneur pour tout cela. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Donc, si nous voulons parler de la double nature de Jésus, il faut bien sûr commencer par son nom. Que veut dire Jésus? On le sait tous dans la Bible, il y a tous les noms qui veulent dire quelque chose, qui veulent dire un sens. Et même nos prénoms, vos prénoms veulent dire quelque chose. Si vous allez à la racine de votre prénom, à quelque part, il va avoir un sens qui va être donné à ce prénom-là. Et c'est le même cas pour Jésus. Et dans Matthieu chapitre 1, 21, eh bien, on nous annonce, l'ange annonce que dans le fond, le bébé, l'enfant qui naîtra porterait le nom de Jésus parce qu'il sauverait son peuple de ses péchés. En hébreu, Jésus, c'est Yeshua, qui signifie l'Éternel qui sauve. Et là, je ne sais pas si c'est peut-être trop petit, mais si c'est trop petit, on va quand même aller voir les textes pour qu'on puisse bien comprendre, ou du moins vous pourrez prendre les notes et voir par la suite à la maison. Et Yeshua qui veut dire l'Éternel qui sauve, Jésus, il s'appellera Jésus parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Donc ce qu'on comprend ici, et là, ce que la parole de Dieu communique, c'est que c'est l'Éternel lui-même qui sauvera son peuple. C'est une délivrance, c'est un salut qui provient de l'Éternel, de Dieu lui-même. C'est dans le nom qui a été donné au Sauveur, mais c'est également dans la racine juive. Et il y a un verset également dans Ésaïe, chapitre 35, versets 4 à 6, que je lis pour vous. Dites à ceux-ci qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Donc, Ésaïe chapitre 35, versets 4 à 6, prophétie du Messie, du Sauveur, nous dit, il viendra lui-même, en parlant de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Et les signes qui suivront cette venue, les guérisons des aveugles, des sourds, des boiteux, eh bien, l'Évangile en est plein et en déborde de ces miracles-là. Et donc, il y a des prophéties biblique, des passages dans la Bible qui nous parlent justement de la venue de ce Dieu-là en tant que sauveur pour sauver son peuple de ses péchés. Bien sûr, il y a Ésaïe chapitre 9, verset 5, ou dans certaines versions, c'est verset 6, qui dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Dans le Nouveau Testament, nous retrouvons un classique, Jean chapitre 1, verset 14, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et dans 1 Timothée chapitre 3, verset 16, et sans contredit, c'est-à-dire sans place à ce qu'il y ait une contradiction, à ce qu'il y ait une mise en doute sur ce qui est vraiment arrivé, donc, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Donc, le message de l'Évangile est un message simple, est un message clair. Un enfant peut expliquer, peut présenter l'Évangile, mais il y a un mystère quand même dans La manifestation du Sauveur est ici, il le dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Donc, ce message du Sauveur que Dieu viendra lui-même sauver son peuple, eh bien, on le retrouve dans différents passages, autant dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Et lors de ma dernière présence ici, j'avais parlé justement de ces caractéristiques humaines de Jésus. Et on avait fait une liste, un genre d'inventaire de tout ce qu'on retrouve comme caractéristiques humaines et qui fait de Jésus-Christ le médiateur parfait. Et dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 5 et 6, et là, je ne sais pas si dans la diapo, c'est assez grand pour que les gens puissent voir. Donc, dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 5 et 6, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. » On avait vu également plusieurs caractéristiques humaines et les références bibliques par rapport à Jésus. Donc, comme tout être humain, Jésus est venu au monde par la naissance d'une femme. Et cette naissance-là, ou cette existence-là, a été inscrite dans un recensement. Il a grandi, il y a eu une croissance comme toute autre personne. Il a eu des frères, il y a eu une famille, donc il y a eu des frères et des sœurs, et la Bible nous parle de cela. Comme tout être humain également, il a été tenté. Comme tout être humain, il a appris l'obéissance. Comme tout être humain, il a eu faim, il a eu soif, il a connu la fatigue, il a connu la tristesse, les pleurs, il a connu la joie, il a connu l'angoisse et l'agonie. Lorsqu'il était à Gethsémani, lui-même le dit, qu'il se trouvait dans une grande angoisse, dans une grande agonie. Il a connu la douleur, il a connu la souffrance. Un élément particulier que bien des fois on n'en tient pas compte, c'est qu'il avait une volonté propre et unique. Et c'est pour cela qu'il a dit, lorsqu'il était à Gethsémani, il a dit, « Père, non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. » Il avait une volonté propre, comme nous tous. Et également, comme tout être humain, bien, il a connu la mort. Et en tout, dans le fond, nous pouvons résumer sa vie comme nous, dans Hébreux chapitre 4, verset 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Et cela fait de lui, dans le fond, le médiateur parfait. En tant qu'homme, dans sa nature humaine, Jésus-Christ est ce médiateur parfait entre Dieu et les hommes, et il est semblable à nous dans absolument tout. Et les passages bibliques que nous avions vus la semaine que j'étais là, montrent également tous ces aspects-là de caractéristiques humaines. Pourquoi? Parce que c'est important. Il y a des gens qui disent que Jésus-Christ n'était pas vraiment humain. Jésus-Christ, c'était facile pour lui de ne pas pécher. C'était facile pour lui de ne pas mentir. C'était facile parce qu'il était Dieu. Oui, mais il y avait cette nature-là humaine, toute comme nous, pleine et totale, qui faisait en sorte qu'il le vivait comme nous également. Toutes ces choses-là. Et la beauté dans tout ça aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on prie, lorsqu'on demande à Dieu de l'aide, parce que nous sommes dans la tristesse, parce que nous sommes dans l'agonie, parce que nous sommes dans la tentation, Jésus-Christ connaît exactement ce que nous sommes en train de vivre. Il comprend. Il l'a vécu lui-même dans la chair. Il sait de quoi nous parlons et il peut vraiment être ce médiateur, cette aide que nous avons besoin parce qu'il nous comprend. Donc, voilà pour la nature humaine. Pour ce qui est de la nature divine, donc Jésus-Christ Dieu, Si en tant qu'humain, c'était le médiateur parfait, en tant que Dieu, ça fait de lui le sauveur parfait. Et dans Tite, chapitre 2, verset 13, il est écrit: En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ. Donc, autant des versets font référence à la nature humaine de Jésus, et bien, il y en a d'autres qui font référence à la nature divine. Et là, lorsqu'on veut vraiment établir si on veut tresser une ligne, si on veut dire, par rapport à la divinité de Jésus-Christ, bien, il faut aller voir qu'est-ce que la Bible nous parle par rapport à Dieu dans l'Ancien Testament. Parce que c'est là où est-ce qu'on retrouve bien des caractéristiques et des attributs de Dieu. Et là, je pense que c'est trop petit, hein? Ce que j'ai marqué, bah, les tableaux sont trop petits, bah, c'est pas grave. Il y a des références qui peuvent être faites autant dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament par rapport à la divinité, des attributs qu'on retrouve qui sont associés à l'Éternel, à Yahweh, et qui sont également retrouvés en Jésus-Christ. Et des versets, autant dans l'Ancien comme dans le Nouveau, pointent vers Yahweh et vers Jésus-Christ comme caractéristique divine. La première, créateur. La première créateur. Dans Genèse chapitre 1, verset 1, nous savons et nous voyons que Dieu crée dans le fond le monde. Dans Jean chapitre 1, verset 1 à 3, on nous dit qu'au commencement, Dieu, au commencement était la parole, que tout a été créé par la parole. Et si nous allons dans Colossiens, ça, on va aller le lire. Là, maintenant que le tableau est trop petit, je m'excuse encore une fois, c'est des choses techniques qui arrivent. Mais si nous allons dans Colossiens chapitre 1 et le verset 16 et 17, nous lisons car en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc, caractéristiques de créateur, on retrouve autant avec l'Éternel qu'avec Jésus-Christ. On retrouve également la caractéristique qu'il est le premier et le dernier. Un passage dans l'Ancien Testament faisant référence de cela avec Yahweh et avec Jésus-Christ également. Lui également, dans une discussion qu'il avait avec les pharisiens, il a dit: Avant qu'Abraham ne soit, je suis. Et c'est la révélation qu'il a donnée également à Moïse, quand Moïse a dit: Ok, tu m'envoies vers les miens en Égypte, qui vont me demander qui m'envoie, quel est le nom que je dois donner? Et là, Dieu lui a dit: Ben, je suis et celui qui t'envoie. Donc, autant pour l'Éternel que pour Jésus-Christ, il est le Je suis. Il est le Sauveur également. On retrouve bien des références dans l'Ancien Testament. Pour l'Éternel, il y a Ésaïe chapitre 43, verset 3, si jamais vous voulez prendre note. Mais dans Actes chapitre 4, verset 12, il y a un passage qui est un classique, mais on va quand même aller le voir, qui fait référence à Jésus-Christ. Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre. Ça, c'est clair. Car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Donc Jésus-Christ est notre sauveur. Jésus-Christ également juge. Une caractéristique de Dieu, Dieu est juge. Et dans Genèse chapitre 18, verset 25, nous retrouvons par rapport à l'Éternel, mais dans 2 Timothée chapitre 4 et le verset 1. De Timothée, chapitre 4, verset 1. Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Caractéristique de Dieu également, c'est qu'il est roi. Et nous savons, Jésus-Christ est le roi des rois et seigneur des seigneurs. En 1 Timothée, chapitre 6, versets 13 à 15, nous retrouvons un passage qui parle de Jésus comme le roi des rois. Il est la lumière. Psaume 27, verset 1, l'Éternel est ma lumière. Et Jésus-Christ, dans Jean, chapitre 8, verset 12, dit « Je suis la lumière du monde ». Il est le berger. Psaume 23, 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et dans Jean, chapitre 10, le verset 11, nous allons lire « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il est le Père. Dans Ésaïe, chapitre 64, verset 8, on parle de l'Éternel comme le Père. Et dans Ésaïe, chapitre 9, verset 5, on l'a lu plus tôt. Et dans certains cas, c'est le verset 6, lorsqu'il sera appelé conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et le Tout-Puissant. Dans Genèse, chapitre 17, verset 1, lorsque Dieu parle à Abraham, il lui dit « Je suis l'Éternel, le Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. » Je paraphrase un peu, mais c'est ce qu'il dit en de grandes lignes. Et dans Apocalypse, chapitre 1 et le verset 8. Apocalypse, chapitre 1, verset 8. « Je suis l'Alpha et l'Oméga. » dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, voilà des passages, et c'est important d'aller chercher les caractéristiques de Dieu qu'on retrouve dans la Bible et comment elles s'attachent également de façon naturelle à Jésus-Christ, faisant de lui, dans le fond, notre Sauveur, parfait. On a lu déjà pour Créateur, pour le Je suis, pour Berger, Père et Tout-Puissant. On pourrait en lire bien d'autres, j'ai juste arrêté là, mais ce qui est important ici, c'est de voir que la Bible parle de ces deux natures-là, autant humain, mais autant divin. Et dans la double nature de Jésus, eh bien, c'est là où ce que bien des fois, on a besoin que le Seigneur nous révèle certaines choses, que le Seigneur nous montre certaines choses. Parce que par rapport à Jésus-Christ, des fois, lorsque nous lisons, nous voyons la nature humaine en action. Dans d'autres cas, nous voyons la nature divine en action. Et c'est là parfois où est-ce que certaines personnes peuvent mal interpréter des choses ou peuvent avoir une conception autre. Qui ne va pas dans le sens de cette double nature-là que nous retrouvons en Jésus-Christ. En tant que Dieu, il est le lion de la tribu de Juda. En tant qu'homme, il est l'agneau de Dieu. En tant que Dieu, il est le Père éternel. En tant qu'homme, il est le Fils engendré. En tant que Dieu, il est le roi des rois. En tant qu'homme, il est le serviteur. En tant que Dieu, il est le souverain berger. En tant qu'homme, il est l'agneau préparé. En tant que Dieu, c'est celui qui pardonne les péchés. En tant qu'homme, il est le sacrifice ultime pour les péchés. En tant que Dieu, il est le créateur de la terre. En tant qu'homme, il est l'habitant de la terre. En tant que Dieu, il répond aux prières. En tant qu'homme, il eut besoin de prier. En tant que Dieu, il multiplie les pains et les poissons. En tant qu'homme, il eut besoin de manger. En tant que Dieu, il est le prince de la paix. En tant qu'homme, il a connu l'angoisse et l'agonie. En tant que Dieu, il donne le repos. En tant qu'homme, il a connu la fatigue et il a eu besoin de dormir. En tant que Dieu, il est le Seigneur et Sauveur Tout-Puissant. En tant qu'homme, le médiateur parfait que nous avions besoin pour être réconciliés avec Dieu. Dans Colossiens, chapitre 2, verset 9, Il est écrit car en lui, c'est-à-dire en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité. Tout ce qu'on peut faire référence, tout ce qui est attribut, caractéristique, fonction, rôle qu'on donne à la divinité, elle se retrouve en Jésus. Ce n'est pas que Jésus est dans la divinité totale et complète se retrouve en lui. Et dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19, nous lisons car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Important de voir ces choses-là, de les explorer, parce que il y a des gens, et parfois on peut entendre des gens même qui ne sont pas de la foi chrétienne, qui vont faire des affirmations par rapport à Jésus qui sont fausses. Parce que s'il est le Dieu, pourquoi est-ce qu'il a besoin de manger? S'il est le grand Dieu, pourquoi est-ce qu'il a besoin de dormir? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de prier? Donc, il ne peut pas être Dieu. Ou il ne peut pas être un homme parce qu'il était Dieu. Donc, pour lui, c'était facile, comme j'ai dit auparavant. C'était facile de vivre la vie, de résister au péché, de ne pas céder à la tentation. Mais il a quand même eu faim. Il a quand même eu besoin de se laver et de manger et de boire et de dormir. Et quand il était bébé, eh bien... papa et maman, ils avaient besoin de venir le nettoyer et s'occuper de lui. Comme tout être humain. Comme tout être humain. Mais avec le mystère qui est révélé à nous aujourd'hui, que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et pour terminer, 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Tout l'Ancien Testament nous annonce la venue de Jésus. Nous annonce la venue d'Emmanuel, Dieu avec nous. Les évangiles nous parlent de sa vie, de sa venue, de son ministère, de sa mort. Les épîtres nous enseignent à vivre une vie comme Christ, à être comme lui, à être ses imitateurs. Et le livre de l'Apocalypse, ce n'est pas un livre des révélations des anciens, des derniers jours, c'est un livre de la révélation de Jésus-Christ à la fin des temps. Lorsque tous les rideaux vont tomber. Et qui nous allons rencontrer vraiment face à face? Le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donc, bien-aimés, désolé parce que j'avais du matériel et j'aurais aimé ça que vous puissiez voir et prendre des références. Vous-même, par rapport à tout ce que nous avons vu, il y a des versets, comme je disais, dans l'Ancien comme dans le Nouveau, pour que ce soit clair pour nous tous qu'il y a cette double nature en Jésus-Christ. Qu'il y a un mystère en ce qui concerne sa personne et son œuvre, et qu'on peut demander à Dieu de nous révéler davantage par rapport à qui est Jésus. Mais une chose est sûre, en lui, toute la plénitude de la divinité se trouve. Pas juste une partie, pas juste le tiers, pas juste le deux tiers, ou la demi, ou le quart, peu importe comment vous aimeriez l'interpréter. Une chose est sûre, en lui, toute la plénitude de la divinité s'y retrouve. On va baisser la tête, nous allons prier, demander au Seigneur de nous aider à comprendre davantage s'il y a révélation quelconque dont nous avons besoin, que nous puissions la recevoir, mais que nous puissions quitter cet endroit en sachant que Dieu, ou que Jésus-Christ plutôt, est pleinement Dieu et pleinement homme. et que ce mix de ces deux natures-là était nécessaire pour notre salut, pour notre rédemption. Père éternel, Seigneur, merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, parce qu'elle nous enseigne, elle nous fait croître. Elle replace les choses, Seigneur, dans nos pensées, dans nos valeurs. Elle change nos perceptions. Elle nous transforme pour que nous soyons, Seigneur, davantage comme toi. Seigneur, nous croyons que tu t'es fait chair, que tu as été manifesté en chair, pleinement, que tu as été semblable à nous, que tu as été tenté comme nous en toutes choses, que tu as expérimenté tous les besoins, tous les défis, Seigneur, toutes les réalités que nous vivons aujourd'hui, qui fait de toi, Seigneur, le médiateur parfait et le sacrifice parfait pour nos péchés et nos offenses. Mais nous croyons également que tu es Dieu, créateur de toutes choses, le Tout-Puissant, l'Alpha et Oméga, le lion de la tribu de Juda, le Père éternel, et que tu es, Seigneur, venu nous sauver toi-même. Merci, Seigneur, pour qui tu es et ce que tu nous révèles, Seigneur, à travers ta parole, Seigneur. Que nous puissions également continuer, Seigneur, dans cette découverte, pour ceux, Seigneur, pour qui c'est une découverte, pour d'autres, Seigneur, que c'est un rafraîchissement, Seigneur, que ce rafraîchissement porte également du bien, un assainissement, Seigneur, dans notre foi et dans notre communion, Seigneur, avec toi. Et qu'en toute chose, Seigneur, ton peuple puisse grandir dans la foi et que, Seigneur, ton nom, le seul nom qui nous a été donné, Seigneur, ton nom soit glorifié dans nos vies et dans cette Église. Nous avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Allez dans la paix de Dieu. Donc, n'oubliez pas, ce vendredi 19h, rencontre missionnaire avec nos pasteurs qui nous visitent d'Amérique centrale. Et allez en paix, que Dieu vous garde. Bonne soirée.